Lors de la campagne militaire de 1806 et 1807, opposant la France à la Prusse et à la Russie, Eylau, actuel Bagrationowsk, dans le nord de la Pologne, fut le théâtre d'un des combats les plus meurtriers des guerres napoléoniennes. Lors de cette bataille indécise, livrée le 8 février 1807, les pertes furent importantes. 25 000 soldats pour l'armée française, 30 000 pour les Russes. Le lendemain, Napoléon Ier, dans une lettre à Talleyrand, revendiqua la victoire et se dit prêt à négocier la paix avec le roi de Prusse, puis il visita le champ de bataille jonché de cadavres et de blessés. À la suite de cette victoire, naquit l'idée d'un concours afin de la célébrer, mais aussi de masquer au peuple français les nombreuses pertes subies lors de ce combat. Dominique Vivant-Denon, directeur du Louvre, alors appelé Musée Napoléon, établit en mars 1807 le programme du concours pour la représentation de la bataille d'Eylau. On devait faire figurer l'empereur Napoléon Ier visitant le champ de bataille d'Eylau le 9 février, donc le lendemain du combat, secourant les blessés. Il fallait montrer des Français vainqueurs. Ce concours public avait pour récompense la commande du valeur de 16 000 francs d'un tableau de même dimension que celui peint par Antoine Jean Gros en 1804, Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa, conservé de nos jours au Louvre, et qui ferait un peu un pendant de ce tableau. Ce serait donc une œuvre qui participerait à la propagande napoléonienne, représentant les res gestae de l'empereur, c'est-à-dire ses exploits. L'esquisse remportant le concours servirait également de modèle pour une tapisserie de la manufacture des Gobelins, projet qui n'aboutit pas. Dominique Vivant-Denon annonça les modalités du concours par voie de presse dans le Moniteur universel, qui était l'organe officiel du gouvernement, et dans le Journal de Paris du 2 avril 1807. Une notice expliqua le sujet du tableau, les détails du carnage, les soins apportés aux blessés et l'épisode fictif du jeune hussard lituanien qui aurait dit à Napoléon « César, fais que je vive et je te servirai fidèlement comme j'ai servi Alexandre ». Denon mit en avant dans sa notice la bonté de l'empereur vis-à-vis des ennemis, sa clémence, soulignant, je cite, « le regard consolateur du grand homme ». Il informa aussi les artistes qui souhaiteraient concourir qu'un croquis était à leur disposition dans ses bureaux du musée Napoléon. La date butoir pour la remise des esquisses au musée était fixée au 15 mai 1807. On comptabilisa 26 concurrents, parmi eux Antoine Jean Gros, qui avait déjà gagné en 1801 le concours d'esquisses représentant la bataille de Nazareth, qui est conservé aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Nantes. Il avait aussi peint d'autres scènes de bataille, comme celle d'Aboukir, qui est conservée au musée de Versailles et qui était exposée au salon de 1806. D'autres concurrents peuvent être nommés, tels Charles Meynier, Charles Thévenin ou encore Zix, qui présenta une esquisse dessinée et qui fut exclue du concours. Les esquisses retenues furent présentées et exposées anonymement au public à partir du 18 mai dans la galerie d'Apollon au Louvre, ce qui suscita le vif intérêt des curieux. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart ont disparu, ainsi que le croquis de Vivant-Denon. Mais on peut constater que dans les esquisses qui nous restent, Napoléon est toujours au centre de la composition, s'adressant à un jeune hussard lituanien. Au loin, on aperçoit les troupes françaises, l'église et la ville d'Eylau, en fond de composition. Le concours suscita de nombreuses critiques. On déplora le court laps de temps accordé pour la réalisation des esquisses, ainsi que le programme imposé, dont les termes étaient contradictoires, complexes, jugé incompatible avec une peinture d'histoire. Certains critiques d'art n'apprécièrent pas la violence représentée dans ces esquisses. C'est, je cite, « champs inondés de sang, couverts de membres mutilés et séparés, entassés pêle-mêle sur le devant des tableaux », selon le critique d'art du Courrier des spectacles du 28 mai. Ce critique d'art, d'ailleurs, estime dans son article que pour certaines esquisses qu'il juge mauvaises, les uns les ont emplis de ciel d'opéra, les autres ne se contentent pas d'une nature morte et couverte de neige, il leur faut de larges rayons qui proviennent d'un soleil vigoureux. Ceux-ci mettent un fourgon chargé de provisions pour objet principal, celui-là fait nager soldats et chevaux dans une mer de sang, l'autre dans un océan de neige, il en est un qui ne montre l'empereur que par derrière. L'esquisse de Gros, conservée à Toledo aux États-Unis, se distingua par la grandeur des personnages représentés. Il a recouvert de neige les cadavres, ablui les carnations et individualisé les visages. Les Russes, par exemple, ont des têtes sur lesquelles se peignent la méchanceté et la barbarie. Napoléon, qui regarde dans la direction du soldat lituanien, contraste par son calme avec Murat à l'attitude intrépide. L'esquisse de Gros fut admirée par le courrier des spectacles qui nota qu'elle était remplie de grande beauté et digne de la réputation acquise par cet artiste. Jean-Baptiste Boutard, critique d'art du journal de l'Empire, donna son avis sur ses esquisses, sur les esquisses le 22 mai 1807, après avoir rappelé à ses lecteurs quelques indications sur le sujet du concours et les instructions à suivre par les artistes. Ainsi, il écrit à propos de l'esquisse de Gros. L'empereur embrasse d'un regard plein d'émotion le vaste champ de carnage. Il exprime du geste la résolution prise avec lui-même de mettre un terme à ce désastre. Cette action intérieure et silencieuse, qui se manifeste seulement par le mouvement de la physionomie, est de celle qu'un peintre habile peut rendre avec plus de précision que ne le ferait l'écrivain. C'est une des circonstances infiniment rares et précieuses pour l'art, où la peinture est plus puissante que le discours et peut ajouter quelque chose au récit de l'historien et même au chant du poète. Le reste de la composition est sagement ordonné. Le jeune lituanien se distingue dans la foule des malheureux qui se pressent sur les pas du héros consolateur. Les pertes de la journée précédente et les douleurs de la nuit sont reproduites par d'ingénieux épisodes. L'exécution est facile et vigoureuse, la disposition pittoresque, la couleur brillante, et les suffrages et les vœux se réunissent en général sur cette esquisse. Si l'on compare cette esquisse à celle de Charles Meynier, par exemple, conservée à Versailles, on remarque que ce dernier a inséré dans sa composition quelques nus au premier plan, référence à l'antique, ce qui a paru très étrange à la critique. Le jury nommé par la 4e classe de l'Institut et présidé par Joachim Le Breton se réunit le 13 juin et accorda le premier prix à Antoine Jean Gros, le premier accessit à Charles Meynier, le second accessit à Charles Thévenin et les encouragements et une médaille d'or à Adolphe Gabriel Rhône et Charles Broca. D'après le Mercure de France du 27 juin 1807, jamais jugement de l'Académie n'a été plus conforme à l'avis unanime du public. Gros ne commença le tableau de Napoléon sur le champ de bataille d'Eylau que 6 mois plus tard et l'acheva le 15 août 1808. Voyons comment s'organise le tableau définitif de Gros en quelques mots, vaste toile conservée au Louvre et plus grande de quelques centimètres que Bonaparte visitant les pistiférés de Jaffa. Puis, si nous allons d'éventuels changements opérés par rapport à l'esquisse, avant de nous pencher sur sa réception critique. Alors, le premier plan est occupé au centre par des cadavres entassés pêle-mêle, gisant sur le sol gelé, dont les chairs sont bleuies. En bas à gauche, un Russe recouvert d'un manteau semble apeuré par un Français venant à son secours. À droite, un ennemi affolé refuse de se laisser soigner par un médecin militaire français. Un chirurgien s'apprête à amputer une jambe. Au-dessus, un autre recule pendant qu'on le soigne. Le second plan est animé à gauche par la figure du hussard lituanien, rendant hommage à l'empereur en levant son bras gauche tandis qu'on panse sa blessure. Il est soutenu par le chirurgien en chef Pierre-François Percy, dont on doit noter l'absence dans l'esquisse. D'autres ennemis implorent Napoléon, qui est l'entourant et étant agenouillé. L'empereur, sur un cheval Isabelle, lève les yeux au ciel, alors que sur l'esquisse, il regarde en direction du lituanien et tend son bras dans un geste de bénédiction. L'allusion au Christ bénissant est évidente. Comparons le tableau de la bataille d'Eylau avec celui de Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa, dans laquelle Napoléon touche le bubon d'un pestiféré et où la référence au roi thaumaturge guérissant les écrouelles est indéniable, eh bien, on constate une forte similitude. L'empereur est entouré de son état-major. On aperçoit, par exemple, Bessières et Berthier, à sa droite. Murat, quant à lui, fait face à Napoléon Ier et s'oppose à l'empereur, comme je l'ai déjà dit, par son attitude intrépide sur son cheval cabré. Au fond du tableau, on visualise les troupes dans la plaine enneigée et rougie de sang, la ville d'Eylau, incendiée et son église épargnée par les flammes et à l'horizon, les flammes et la fumée qui montent au ciel, noircissant l'horizon. Gros a élevé la ligne d'horizon et a donné une grande importance au groupe formé par Napoléon et son état-major et a grossi les personnages ainsi que les cadavres. Il a également adouci dans sa toile les visages des Russes par rapport à l'esquisse. Vivant de nous rendit son impression sur le tableau à Napoléon dans une lettre datée du 15 août 1808. Je le cite. « Ce grand artiste marche de chef-d'œuvre en chef-d'œuvre. Ce tableau est supérieur encore à la peste de Jaffa et à la bataille d'Aboukir. Ce bel ouvrage sera au salon prochain. » La veille de l'ouverture du salon, Il envoya de nouveau une note à l'empereur dans laquelle il écrivit que Gros avait développé tout ce que le pinceau peut avoir de poésie et d'énergie. Le salon de 1808 ouvrit ses portes le 14 octobre et le 22, Gros y fut décoré de la Légion d'honneur par l'empereur venu visiter le salon. La critique d'art de l'époque ne manqua pas de louer le tableau. Tout est beau, tout est distinct, tout est en harmonie, point de tumulte, point d'embarras. L'œil saisit tout, embrasse tout, reconnaît tout, peut-on lire dans la brochure anonyme intitulée « Observations sur le salon de 1808 ». Isidore Guillet, dans le Publiciste du 15 octobre, indiqua au lecteur que le tableau était plus beau que ce que ne l'avait fait espérer l'esquisse. L'exécution fut jugée savante et rapide, le coloris convenable à la scène, le dessin vigoureux et correct, et l'expression vraie. Victorin Fabre écrit dans le Mercure de France du 3 décembre qu'il serait difficile d'imaginer rien de mieux pensé, de plus expressif, de plus frappant que la tête du monarque. Joseph-François-Nicolas Dussochois de Bergemont, dans le Journal des Arts, des Sciences et de Littérature du 18 octobre, note au sujet du tableau, en faisant l'éloge de Napoléon, que, je cite, « On est frappé d'un sentiment d'horreur et d'admiration. Si l'horreur qu'inspira le spectacle de la destruction serre douloureusement le cœur et le remplit d'un sentiment d'horreur et d'épouvante, le regard de l'empereur, ce regard empreint d'une si grande compassion, d'une sollicitude si paternelle et cependant si noble, offre à l'imagination quelque chose de sublime et remue doucement l'âme. Le héros paraît encore plus héros quand, après la victoire, il gémit sur le sang qu'elle a coûté. Quand on lit dans ses yeux que la seule nécessité l'a contraint à couvrir de deuil le champ qu'il parcourt. Tout est national dans ce tableau. La bravoure et la sensibilité, ces deux vertus chères aux Français la caractérisent. Rien de plus touchant que ces épisodes. Quelle expression d'humanité dans les figures de ces officiers de santé dont les soins rendent les blessés à la vie. Comme on partage l'enthousiasme de ce chasseur reconnaissant qui presse sur son sein la jambe de l'empereur. Mais on peut lire des critiques plus négatives que lors du concours des esquisses. On lui reproche, par exemple, d'avoir mal observé la perspective et la proportion colossale des figures du premier plan, comme l'écrit Charles-Paul Landon dans les annales du musée de l'École des Beaux-Arts, salon de 1808. Il ajoute qu'un sentiment pénible est causé à la fois par ce spectacle de douleur et par la teinte sombre et triste que répand autour des objets un ciel âpre et nébuleux. François Ducré du Ménil note dans les petites affiches de Paris du 10 décembre que Gros a négligé la justesse des plans, la vérité des proportions. Il ajoute, deux jours plus tard, à propos de l'outrance des figures du premier plan, qu'un admirateur excessif se mit à dire que c'était un trait de génie de la part de l'auteur qui, par là, voulait exprimer quel géant l'armée française avait eu à combattre. En outre, dans une brochure anonyme intitulée « Nouvel observateur au musée Napoléon », un amateur donne ses impressions tout en prévenant l'émotion que cette toile pourrait susciter auprès des femmes. Je cite. « Quelle superbe horreur qu'un champ de bataille. Ah, monsieur Gros, votre tableau est bien beau, mais je crains bien que le beau sexe qui ira l'admirer n'y gagne des attaques de nerfs. Non, jamais la sensibilité de nos dames n'y pourra résister. » Alors voici, pour illustrer d'une manière plus légère mes propos, trois exemples de paroles de chansons publiées dans différentes brochures anonymes, parues à l'occasion du salon de 1808. Ce sont des paroles sorties de la bouche de personnages fictifs mis en scène dans ces brochures. Alors, le premier exemple est tiré des tableaux en vaudeville et répond à l'esprit de propagande napoléonienne. Champ de bataille d'Elo, on admire le tableau du monarque si puissant, partout triomphant, donnant secours aux blessés par les leurs abandonnés. Le second est une chanson dans laquelle se répondent deux époux, Monsieur et Madame Denis, dans la brochure intitulée « Revue des tableaux du muséum par Monsieur et Madame Denis et Benjamin leur fils ». Ainsi, contemplant le tableau, Madame Denis chante « Voyez ce joli tableau, mon ami, comme il est beau. Moi, je n'aime pas le sang, souvenez-vous-en, mais j'aime bien nos Français qui se battent pour la paix. » Et Monsieur Denis lui répond « M'amour, voyez l'empereur, ah, comme il peint la douleur, mais Napoléon le Grand, souvenez-vous-en, n'a-t-il pas dit aux Français « Je vous donnerai la paix ». Voici enfin un troisième et dernier exemple. Ce sont les paroles prononcées par un certain cadet-buteux et que l'on peut lire dans la brochure éponyme « Première journée de cadet-buteux au salon de 1808 », écrite dans un langage très populaire. « Je montons et de la dernière marche, j'admirons Elo, la porte sert de là comme d'une arche, dont se trouve Banks tableau. Pour être vu d'une grande distance, Gros dut le calculer, car si trop près on s'avance, ces Russes font reculer. » Enfin, l'instauration des prix décennaux par Napoléon Ier, commémorant le coup d'État du 18 Brumaire, donna lieu en août 1810 à une exposition réunissant les meilleures productions françaises réalisées depuis 10 ans en peinture, sculpture, architecture et gravure. Napoléon visitant le champ de bataille d'Eylau, y fut exposé parmi d'autres œuvres de Gros, telles Bonaparte visitant les pisciférés de Jaffa. Mais la bataille d'Eylau fut très peu commentée par la critique. On ne retrouve que 5 mentions du tableau dans la presse et la critique est assez mitigée. Le courrier de l'Europe et des spectacles du 22 septembre 1810 loue le tableau en ces termes. Ce tableau réunit une grande partie des qualités qui constituent les bonnes compositions historiques. Le génie de l'invention, l'unité d'action, la correction et la fermeté du dessin, une belle ordonnance, la force et la hardiesse d'exécution, la vérité dans les expressions, la richesse du coloris. Quant à Fabien Pillet, dans le journal de Paris du 3 septembre 1810, il est plus modéré. L'expression de tête et le geste de l'empereur sont admirables. C'est une beauté de sentiment qu'on ne peut trop louer. Mais la couleur du tableau est-elle bien vraie? Est-elle surtout bien harmonieuse? Les fonds se dégagent-ils aussi parfaitement que l'exigerait la perspective? Enfin, la partie du dessin est-elle aussi sévère et aussi ferme que les autres compositions de M. Gros? Enfin, l'auteur de l'article du Publiciste paru le 18 septembre déplore que Gros ait, je cite, « entassé les expressions outrées et l'exagération de la laideur ». Alors ce tableau de Napoléon sur le champ de bataille d'Eylau demeura dans l'atelier du peintre jusqu'en 1824, date à laquelle il entra au Musée Royal, actuel musée du Louvre. Il y est toujours exposé faisant face aux pestiférés de Jaffa.